je vais expliquer.
Alors cette sagesse est un don de Dieu, chapitre 1, versets 5 et 8. C'est une sagesse d'en haut, chapitre 3, verset 17. Elle est liée à la prière, chapitre 1, versets 5 et 8. Et à la confession des péchés, chapitre 4, verset 9. Peut-être aussi chapitre 5, verset 16. Cette sagesse, je relève quelques points, ça me semble central, cette imbrication des thèmes. Elle est faite de justes attitudes, en particulier face à la richesse et à la pauvreté. Chapitre 4, verset 1 et suivant. Et le danger que souligne Jacques, c'est l'adultère spirituel. L'adultère spirituel. Chapitre 4, verset 1 et suivant. C'est donc une sagesse qui semble reprendre pour elle-même tout ce que l'apôtre Paul dit de l'esprit. La prière, c'est une sagesse d'en haut, elle produit des fruits, les fruits pacifiques et tout cela. La vie donc, face à la tentation, richesse, pauvreté, notre vie devrait être animée par la sagesse. Alors c'est une sagesse incarnée. La sagesse spirituelle dont je parle, dont Jacques parle, s'incarne dans le souci des pauvres et des faibles. Celle qui anime la religion sans cure et sans tache, dont Jacques parle, chapitre 1, verset 27. C'est une religion qui n'opprime pas par la parole, chapitre 1, verset 26, chapitre 4, versets 11 et 12. C'est une religion qui ne fait pas de considération de personne, pas de favoritisme, mais qui pratique la miséricorde, chapitre 2, verset 1 à 13. C'est une religion qui unit les œuvres à la foi, chapitre 2, 14 à 26, chapitre 3, verset 13 à 18. J'amoncelle hein, les citations pour qu'on comprenne bien. Elle n'opprime pas par la parole, je l'ai déjà dit, hein. Mais la parole est droite, chapitre 5, verset 12. Et cette sagesse se vit dans la solidarité, chapitre 5, verset 13 et 18, et le souci d'autrui, chapitre 5, verset 19. Alors j'aimerais dire que pour nous, pour moi, il y a là quelque chose de très intéressant. Alors je vais simplement faire une parenthèse et pas comprendre la pause, parce que bon, je vais vite. Hein, Il me semble là que Jacques s'inscrit dans une théologie qui est très proche de celle de Jésus. Jésus parle très peu du Saint-Esprit, en fait. Il en parle beaucoup dans Jean. Mais prenez le sermon sur la montagne. C'est la sagesse de Jacques. Et quand Jésus dit « La sagesse a été justifiée par ses enfants » Matthieu chapitre 11 « ou justifiée par ses œuvres » Il y a la version de Luc et la version de Matthieu. Deux traductions. De façon de rendre ce que Jésus a dit. Jésus souligne justement que la sagesse qu'il incarne a été justifiée par ceux qui ont cru en lui ou par les œuvres qu'il fait. Ses œuvres et ses disciples prouvent qu'il est la sagesse. Et que son enseignement est un enseignement de la sagesse. Sermon sur la montagne, etc. Et on retrouve là un petit peu dans Jacques. Et alors, ça devrait nous faire réfléchir sur notre manière de considérer la façon dont l'esprit agit. Qu'est-ce que ça veut dire que l'esprit agit dans l'Église? Dans mon mon ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que l'Esprit agit dans ma vie? Que l'Esprit me guide, que l'Esprit me dirige. Je crois que pour certains chrétiens, ça veut tout dire, sauf d'être conduit avec sagesse, par la sagesse. Parce qu'on va dire, c'est trop intellectuel, ça donne trop de place au bon sens humain, c'est trop incarné, c'est trop humain, tout ça. Ça prend en compte trop de réalités humaines, culturelles, historiques, d'éducation, la sagesse, hein, pour que ce soit l'œuvre de l'esprit. Si c'est l'esprit, c'est justement quelque chose qui n'est pas naturel, pas culturel, pas trop humain. Un peu, ça vient un peu d'extérieur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui soit un peu en dehors des habitudes. Alors que lorsqu'on comprend que, pour Jacques en tout cas, sa théologie de l'esprit, c'est une théologie de la sagesse, dans une situation très concrète, qui est celle de l'épreuve et de la tentation liée à la richesse et à la pauvreté, ben, je crois que ça permet de re-réfléchir, de reconsidérer toute la conception de l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça, c'est très intéressant. Mais nous n'avons pas le temps de le voir. Ça, je le fais juste quelques mois. Oui? C'est la même. Alors, pour parler de proverbes, quelques-uns m'ont rendu une dissertation sur Jean 6. Bon, ouais, allez, on va. Jean 6, Jésus dit, je suis le pain de la vie. Après, il dit, il faut qu'on me mange. Puis il faut qu'on boive mon sang. Alors ça, c'est scandaleux pour un juif, boire le sang. Alors il y a des auteurs, même un auteur comme André Feuillet, un auteur catholique, qui dit, mais Jésus ne peut pas faire allusion à l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie n'a même pas été instituée. Instituée, c'est plus tard. Jean 6, c'est un an avant l'institution de la Sainte Cène. Par quoi fait-il qu'il y a allusion? Alors ces auteurs, de manière très convaincante, soulignent que Jésus, là, se dit... s'identifie à la sagesse. Et le texte est truffé d'allusions au texte de la sagesse. Dans Proverbe et même dans les textes apocryphes, d'allusions. Et en particulier quand il dit manger et boire, bien prenez Proverbe 9. La sagesse crie, elle dit, venez, mangez mon pain, venez, buvez mon vin. Et vous aurez la vie. Proverbe 9, 5, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Vous avez le texte sous les yeux? Vous pouvez juste le lire? Alors là, il y a tout l'enseignement, tous ces textes sur la sagesse qui sont présents dans Jacques, qui sont suggérés dans Jacques. Bon, quand Jacques dit au début, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande et Dieu la donne à celui qui ne doute pas, là il fait très certainement allusion à Salomon. Salomon qui a demandé la sagesse et qui l'a reçue. Et justement qui a demandé la sagesse et non la richesse. Il y a tout cet enseignement dans Saint Testament qui est assumé dans Jacques. Et alors, ce qui, moi, me semble intéressant par rapport au reste du Nouveau Testament, c'est que nous avons là une théologie de la manière dont Dieu agit dans la vie de l'individu et de la communauté, qui est autre, mais parallèle, à la théologie de l'apôtre Paul, qui va parler de l'œuvre de l'Esprit. Et je serai même prêt, on va y venir, un peu plus tard, hein, à à dire que c'est une théologie un peu plus archaïque. Que l'apôtre Paul, dans sa théologie de l'esprit, c'est un développement théologique qui est en conformité avec ce que dit Jacques, mais qui est un développement au travers d'une réflexion théologique un peu plus, pour certaines raisons historiques que nous allons l'aborder, nous allons le voir, un peu plus poussée ou un peu différente, une restructuration de la théologie, où il parle de l'œuvre de l'esprit d'une manière originale par rapport à Jacques, qui représente une théologie un peu plus judéo-chrétienne, un peu plus archaïque, plus ancienne. Je suis prêt à le dire, et puis bon. Et on va essayer de justifier la chose. Et ça me semble très intéressant. Voilà, on arrête 5 minutes. Alors, nous continuons donc le cours. Mon grand A, c'était des thèmes liés les uns, liés entre eux, je crois, un peu comme ça. Bon, en particulier, j'ai parlé de la sagesse, ça me semblait, c'est le thème le plus important, disons voir comment c'est lié au reste. Grand B, un contexte historique. C'est mon grand B. Et là, je vous renvoie, donc mon grand 1, c'est les propositions de datation de l'Épître. Proposition de datation. Quand l'Épître a-t-elle été écrite? C'est sûr que ça... Alors, peut-être pour vous expliciter la démarche, nous avons découvert si ce que j'ai dit jusqu'à présent tient debout. Et c'est juste. Premièrement, que nous n'avons pas affaire là à un texte un peu atemporel, avec des vérités morales, générales, mais que c'est un texte qui s'applique à une situation donnée, de communauté chrétienne donnée. C'est un texte qui forme une unité. L'impression que vous avez... C'est vous qui avez dit ça, je crois, hein. Au début, je crois que c'est vous. De textes qui ne semblent pas liés les uns aux autres. Ça part un peu dans tous les sens. C'est une impression qu'on a, c'est vrai, pour un lecteur occidental, aujourd'hui. Mais il me semble que lorsqu'on découvre la structure, on met en évidence la structure, que l'on rentre dans le texte, et que l'on se rend compte qu'il y a une grande unité structurelle, qu'il est construit de manière très, très serrée, avec trois fils que l'on entremêle de plus en plus dans l'Épître au fur et à mesure, on se rend compte que là, nous avons un texte qui forme une unité, qui s'adresse à une situation particulière, pas à des situations disparates, hein, mais à une situation particulière, en tout cas à une situation peut-être de plusieurs églises, hein, il parle des 12 tribus, on verra, à une situation particulière. Se pose donc le problème de la date. C'est sûr que si l'on veut discerner de quelle situation il s'agit, la question de la date est importante. Alors, que proposent les théologiens? Alors là, vous avez un tableau. Je vous ai donné donc dans une des photocopies le tableau des datations proposées par les commentaires jusqu'en 1984, ou même, non, même plus, je crois. Alors voilà, c'est ça. La datation de l'Épître de Jacques. Alors j'ai pris ça, donc vous avez la référence, c'est dans Peter David. Alors vous voyez que Peter David a regroupé les propositions de datation d'origine donc de cette lettre en différents groupes. Donc vous avez une origine juive, Jewish origin. Vous avez ceux qui disent que c'est James the Just, Jacques le Juste. Et puis vous avez ceux qui disent que c'est post-jacobéen, jacobien. On va pas dire, oui. Bon. Donc c'est après Jacques. C'est pas Jacques, mais ça date d'après Jacques. C'est Jacques, le frère de Jésus. Alors, ceux qui disent, parmi ceux qui disent simplement que c'est d'origine juive, c'est un auteur juif, vous en avez de nouveau trois, Vous avez ceux qui sont pre-James the Just, d'avant Jacques le Juste. Il y en a même qui disent que c'est un écrit juif qui a été christianisé. Vous avez ceux qui disent que c'est après Jacques le Juste. Et il y en a ceux qui disent que c'est pas Jacques, et puis c'est pourtant assez, c'est écrit très tôt, même à l'époque où Jacques vivait encore. Oui. C'est un juif, mais on ne sait pas qui. Oui. Bon. Puis vous avez Jacques le Juste, deuxième colonne. Alors il y a tous ceux qui disent que c'est un écrit très ancien. Il a été écrit entre 40 et 50. Puis ceux qui disent que ça a été écrit entre 40 et 62, ils sont moins précis. Pourquoi 62? Parce que c'est la date à laquelle Jacques est mort. Et ceux qui disent que c'est plutôt un écrit tardif, dans la vie de Jacques, entre 51 et 62. Et là, vous avez donc une série de commentateurs. Puis vous avez le troisième groupe, ceux qui disent que l'auteur est Jacques, mais Jacques seulement de manière en partie. Que ça, son texte est retravaillé par la suite. Peter Davids lui-même dit que c'est Jacques. Il serait dans le early, donc dans la colonne de gauche, c'est un texte ancien, hein, de 40 à 50, mais retravaillé par la suite quand même par un secrétaire, plus tard, après la mort de Jacques. Deux étapes dans la rédaction. Et puis vous avez ceux qui disent que c'est un auteur pseudonymique, donc il prend le nom de Jacques, mais c'est pas Jacques. Et là, vous avez toute une liste, dont Gougain, le dernier que j'ai ajouté en bas, là. Gougain, donc le commentaire en français. Protestant. Donc, vous voyez que le choix est large. Alors, il est clair que moi, je me situe dans la colonne du milieu. Je le dis parce que je vous ai annoncé, je vous ai dit que je pense que c'est Jacques qui a écrit Jacques. Et que je ne vois aucune raison pour dire qu'il y a un travail de secrétaire. Il faudrait bien sûr que je justifie ce que je dis. Il y a des discussions sur la langue qui est utilisée, tout ça, sur la qualité du grec, c'est un bon grec. Bon, je ne justifie pas. Hein. Je pense que c'est Jacques qui a écrit, donc je me situe dans la colonne du milieu. On va essayer de voir si nous pouvons préciser. Mais même... Donc, pour ceux qui disent que c'est Jacques qui l'a écrit, il a écrit cette épître, vous voyez que la datation, les propositions de datation sont très larges. Hein, ça va de 40, en gros, à 62. Alors, c'est particulièrement important, bien sûr, pour situer Jacques par rapport à Paul. Voilà. Alors, y a-t-il dans l'épître des indices qui nous permettraient de situer cette épître dans le temps et savoir où elle a été écrite? Alors, il y a le mot dispersion. Oui. Oui. Alors, à quoi renvoie cette dispersion? Est-ce que c'est la dispersion juive? La diaspora juive? C'est le mot qui est utilisé pour la dispersion juive, hein, dans la diaspora. Ou est-ce qu'il faut comprendre ce mot dispersion de manière plus théologique et morale? C'est utilisé dans certains écrits juifs de l'époque, Qumran, où les Esséniens ou certains groupes juifs se considéraient comme dispersés dans le peuple, en exil en Palestine même. Hein, les Esséniens, le grand prêtre, chef de la secte essénienne, du groupe essénien, du groupement essénien, ont été même mis à mort, peut-être par des autorités juives, sadducéennes ou pharisiennes. Donc les Esséniens avaient été Qumraniens, si vous voulez, mais il n'y avait pas que des Esséniens Qumran. Hein. Il y avait d'autres Esséniens un peu partout, dans d'autres endroits en Palestine. Certains donc pensent que ces gens avaient été persécutés. Il y a des raisons de le penser. Il y avait même dû s'exiler un temps à Damas. Si l'on prend ce qui est dit sur Damas dans ses écrits de Qumran de manière littérale, pendant qu'ils sont de Damas. Alors, ils pensent qu'ils avaient même été exilés. Ils ont dû aller à Damas et puis ils ont pu revenir certains en Palestine un peu plus tard. Et là, vous avez le thème de la dispersion qui est utilisé pour des juifs même en Palestine même. Ou alors, s'agit-il d'une façon de parler de l'Église? Et que sont ces 12 tribus? Voilà des questions. Bon, pas d'indice. Il faut en tenir compte. Il y a aussi des indices, un indice climatique, une indication climatique. Chapitre 5, verset 7. Je vais lire dans la semeur, je sous les yeux, là. 5, 7. Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne, pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre, il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Alors, voilà ce que dit Peter Davids. Les pluies du printemps et de l'automne sont caractéristiques du climat palestinien. On ne trouve pas ça en Égypte, ni en Italie, ni dans la plus grande partie de l'Asie mineure. Il n'y a pas ces deux pluies. Et donc l'Égypte, l'Italie et l'Asie mineure ont été proposés comme lieu de rédaction de l'Épître de Jacques. Alors si les gens auxquels écrit Jacques, ou si Jacques lui-même, fait allusion à la situation qu'il connaît ou que connaissent les gens auxquels il écrit, ces gens ne sont très certainement pas en Égypte, en Italie ou en Asie mineure, mais plutôt dans la région de la Palestine, disons dans Syrie-Palestine, c'est-à-dire que ça inclut la Syrie, le Liban, si vous voulez, la Palestine. Maintenant, peut-être que Jacques n'utilise qu'une image. Nous ne vivons pas en Palestine, mais nous comprenons très bien l'image. Et nous comprenons ce qu'il veut dire. Mais c'est vrai qu'on a un peu de peine à comprendre, il faut que l'on regarde les commentaires, il faut qu'on regarde les dictionnaires ou les bouquins pour savoir pourquoi il parle des pluies des pluies de l'automne et du printemps. Il faut qu'on se renseigne sur le climat, hein, sur des formes de climat qui ne sont pas les nôtres. Ça pourrait aussi être une référence à des textes de l'Ancien Testament. Absolument. Ce n'est certainement pas une allusion à des mouvements de réveil. Vous savez que certains interprètent ce texte comme renvoyant à une activité de l'esprit, l'automne, puis le printemps, comme s'il y avait deux saisons. Vraiment, dans le texte, rien ne le suggère. C'est une simple image. Oui. Absolument. Ah oui. Alors ça, c'est même certain. C'est certain qu'un juif de Palestine, et même un juif de la diaspora qui n'est pas originaire de Palestine, devait très bien comprendre cela, parce que d'abord il lit l'Ancien Testament, donc il sait ce que sont les pluies d'été, lieux de l'automne et du printemps, et deuxièmement, tout juif de la diaspora, à un moment donné, venait à Jérusalem pour les grandes fêtes de pèlerinage, Pâques entre autres. Et il avait des liens avec la Palestine. Et donc un juif de la diaspora devait comprendre. Donc, autre indice, les indices économiques. Il est fait allusion à des commerçants, il est fait allusion à de riches propriétaires terriens. Des commerçants qui se baladent un peu partout pour faire des affaires, et de riches propriétaires terriens qui exploitent les journaliers, les ouvriers journaliers qui travaillent sur leur terre. Alors on pouvait trouver cela un peu partout, mais très certainement en Palestine, à coup sûr. En particulier dans la Palestine israélienne, la Judée, où les terres étaient accaparées, où les Sadducéens s'accaparaient les terres. Les riches propriétaires, les Sadducéens, c'était l'aristocratie juive, très riche, qui se permettait, soutenu d'ailleurs par le pouvoir romain, de s'accaparer les terres. Palestine. Ils ont d'ailleurs pas mal de tensions entre Parisiens et Palestiniens à cause de ça. Oui. Ah non, pas après 70. Après 70, il y a eu une dispersion. Et on ne parle plus de Sadducéens. Oui. Oui. Alors, c'est le système, en Palestine en tout cas, c'est le système juif. Hein. Un juif avait le droit de vendre ses terres et de vendre sa force de travail à un propriétaire foncier. C'est dans la loi. Et normalement, tous les 7 ans, il fallait le libérer, et puis bon, voilà. Ça, c'était pas toujours respecté. Donc, en Judée même, c'est plus la loi de l'Ancien Testament qui était appliquée que la pratique romaine, ou la pratique romaine. Et ce n'est certainement pas l'esclavage que l'on retrouve en Grèce. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage classique, même de Rome, ou de Grèce, en Palestine. Les Juifs pouvaient avoir des esclaves, mais c'était des esclaves non-juifs, des païens. Et des riches propriétaires fonciers avaient ce genre de serviteurs. Mais les journaliers n'étaient pas esclaves. C'était des journaliers, c'était des juifs qui n'avaient plus de terre, ayant été dû s'endetter, ils avaient vendu leur pouvoir de travail à des propriétaires terriens. On trouve ça dans les paraboles de Jésus. Le matin, vous avez les ouvriers et journaliers qui viennent, et puis il y a un propriétaire qui sort, qui dit toi, tu viens travailler pour moi, et puis à différentes heures, il recrutait des ouvriers pour travailler sur ses terres. Alors il y a eu des. Alors, en tout cas, le jubilé n'était jamais appliqué. Bon, dans Jérémie, entre autres, hein, la libération des esclaves, il y a tout un texte où il était question de la libération des esclaves, en plein siège de Jérusalem, quand Jérusalem était assiégée avec les Récabites. Bon. Mais on voit que les Juifs qui ont promis de libérer les esclaves, après sont revenus sur la décision. Alors, ça a dû avoir lieu. Le jubilé, on n'a aucune preuve que le jubilé n'a jamais été appliqué. Alors, la libération des esclaves et des dettes, c'est quelque chose certainement qui a dû avoir. Enfin, le sabbat des terres, ça avait lieu, ça. Donc, c'était lié, hein, aussi, tous les 7 ans. Hein. Mais jusqu'à quel point, et surtout à cette époque-là, je pense qu'à cette époque-là, l'influence de Rome était telle que on n'appliquait pas vraiment ces règles-là. Autre indication, c'est que l'Église est une Église pauvre. Il y a beaucoup de pauvres, en tout cas. Alors, je souligne, vous voyez où je vais en venir, hein, mais je souligne en tout cas qu'en acte 2 et 4, il est question de pauvres dans l'église de Jérusalem. Qu'en acte 6, il est question du traitement des veuves. Les veuves n'étaient pas bien traitées. Vous savez qu'il y avait différentes synagogues à Jérusalem, synagogues de juifs parlant l'hébreu, de synagogues de juifs parlant le grec. Alors il y a les veuves, ce qu'on appelle les hellénistes. Alors c'était des veuves, certainement, de juifs parlant le grec, vivant à Jérusalem, qui s'étaient convertis et qui faisaient partie de l'église. Et lors de la distribution de la nourriture dans l'église de Jérusalem, eh bien, ces veuves étaient négligées, nous dit acte 6.
souci des veuves. Alors on nomme des diacres pour que ce ne soit pas le cas, pour que les choses puissent être mieux organisées. Et vous savez que dans Acte 11, Paul et Barnabas viennent à Jérusalem pour apporter le secours, l'argent, que l'église d'Antioche avait réuni pour venir aider, soutenir financièrement l'église de Jérusalem et les pauvres de l'église de Jérusalem. Et on retrouve dans Galates 2 l'engagement de Paul et de Barnabas lorsqu'ils voient Jacques, Pierre et Jean. Jacques, Pierre et Jean leur disent qu'il faut qu'ils n'oublient pas les pauvres. Et l'engagement de Paul et Barnabas, ils disent, nous avons mis un point d'honneur à ne pas oublier cet aspect des choses. Et vous savez aussi qu'il y a Agabus avec la famine. Donc on voit que l'église de Judée était une église qui a connu pas mal de difficultés de pauvreté. Quatrième indice, les persécutions. L'épître de Jacques suggère qu'il y a des difficultés, en tout cas. Alors, il y a des difficultés de la part des riches. Vous avez tué le juste ou les justes. Est-ce que c'est simplement de l'oppression due à l'exploitation, disons, des pauvres, ou est-ce qu'il y a plus que cela? C'est parce qu'ils sont chrétiens. Le mot juste suggère peut-être qu'il y a une dimension religieuse à cette peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que le chapitre 2 confirme qu'il y a des problèmes religieux aussi, que l'Église passe par des problèmes religieux, de persécution religieuse, des difficultés religieuses en tout cas. Au chapitre 2, le verset... Alors, où est-ce que c'est ça? Verset 6. Et vous, vous méprisez le pauvre. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Jacques 2, 6 et 7. Un indice que... Bien sûr. Alors, c'est un indice qui veut dire que l'Église passe par des moments difficiles, des persécutions. Je souligne quand même que dans le livre des Actes, les persécutions ne sont jamais le fait des Romains, des païens, mais toujours le fait des Juifs. Pratiquement toujours. Et que après la fin du livre des Actes, commence la persécution des Romains. Et alors là, il y a un lien entre les riches et les persécutions. Oui. On va y venir là. Là, vous avez ici une remarque, je crois, que le... J'ai pratiquement jamais lu ça dans les commentaires, mais je crois que c'est une remarque très importante. On va y venir. C'est ce lien entre les riches, de manière très générale, les persécutions avec une dimension religieuse. Est-ce qu'on dirait ça des riches à Corinthe, des juifs de Corinthe, des juifs de Thessalonique, qui persécutaient les chrétiens ou qui ont causé des problèmes aux chrétiens? Je ne sais pas. Là, c'est comme s'il y avait une réalité sociale à laquelle s'ajoute une réalité religieuse. Je pose des indices. Hein. J'aimerais simplement souligner que le livre des Actes nous parle de tensions réelles en Palestine. Grave tension. Et entre les autorités juives et les riches, Sadducéens, etc. Il y a la persécution dès Acte 8. Paul est impliqué là-dedans. Acte 8. Jacques, le frère de Jean, est mis à mort. Acte 12. Et on sait que Jacques a été assassiné en 62 Je me demande
s'il a été assassiné uniquement pour des raisons religieuses. S'il n'y a pas une bonne part de critique sociale dans les raisons de son assassinat, je ne sais pas. En tout cas, ça me conduit au point suivant, et je reprends ce qui a été dit, c'est nous avons affaire à une église dispersée. Alors, juste deux mots sur l'expression 12 tribus. C'est marqué au début. Hein. Jacques, serviteur de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Je vous fais remarquer que dans l'ancienne version de la Bible du Semeur, on avait ajouté dans le monde dispersé. On l'a supprimé dans le monde. On interprétait le mot diaspora comme trop, comme se renvoyant trop à la diaspora juive dans le monde. Là, on l'a supprimé. Donc, ces 12 tribus, c'est qui? C'est clair que ça serait une bonne façon de parler de juifs. Mais c'est clair que ça renvoie à l'Église. Alors, c'est l'Église, vrai Israël. Mais c'est aussi clair que cette façon de parler, bon, si c'était surtout des juifs convertis, ça irait encore mieux. Bien que dans Paul, le thème d'église vraie Israël, on le retrouve très souvent. C'est nous les vrais circoncis, c'est nous le temple de Dieu, où il parle, nous sommes l'Israël de Dieu, enfin, Galates 6, etc., etc., etc. On trouve cela, disons, solide. Paix sur l'Israël de Dieu, on trouve ce genre de thème très souvent dans le Paul. Oui. Alors cette perte des 10 des 10 tribus, c'est quelque chose qui me semble un petit peu. Bon, on trouve ça dans les livres apocryphes juifs, mais dans Zacharie, les questions du retour des 12 tribus. Et dans Esdras, les questions du retour des 12 tribus. Dans les prophètes d'après l'exil. Oui, mais Jésus parle des 12 tribus d'Israël. Quand le Fils de l'homme viendra et lors du renouvellement de toutes choses, vous serez sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et il est question aussi dans les évangiles, nos 12 tribus. Alors, c'est vrai, bon, c'est ce thème des 10 tribus perdues sur lequel se greffent quelques orientations eschatologiques, ça me semble assez étrange. Moi, je vois dans les évangiles et dans les prophètes post-exiliques de l'Ancien Testament la présence des 12 tribus. Ce sont les 12 tribus qui sont entrées. Ah oui, absolument. Alors là, quand on lit le Talmud, alors ça, absolument, les 12 tribus, l'Israël, c'est les 12 tribus. Oui. Oui, absolument. Je note que suite à la persécution de l'Église, chapitre 8, verset 1 et verset 4, il est dit que l'Église a été dispersée. Il est question de la dispersion des persécutés. Vous en avez parlé. Et que seuls les apôtres sont restés à Jérusalem. Pendant un temps en tout cas. Et je note quand même à propos de ces 12 tribus qu'au chapitre 2, verset 21, si je ne me trompe pas, oui, Jacques écrit Abraham, notre père. Alors c'est vrai que Paul pourrait dire la même chose, mais il dirait le père des croyants. Notre père, oui, il le dira aussi. Mais bon, c'est une façon assez lapidaire de parler, sans explication. Ce qui suggère que ça peut être des juifs, Nouvel indice, ça va, vous suivez toujours? Je ne sais plus où on en est, moi j'en suis à 6, hein, à vous de voir. Nouvel indice, c'est que je ne vois nulle part dans l'épître de mention de païens convertis. Alors que dans les épîtres de Paul, c'est constant.
On parle du problème de la circoncision, de la nourriture, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger, des tensions entre juifs et entre judéo-chrétiens et pagano-chrétiens, des faibles et des forts, c'est tout le temps. Le rôle de la loi, etc., 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 etc. Il n'y a pas une épître où il n'y a pas quelque chose de cela. J'en vois aucune. Peut-être de Thessaloniciens, peut-être, bon, mais il n'y en a presque pas. Même Timothée, Timothée, Tite, non, il y a une question de la loi là-dedans, enfin, c'est bien. Oui, de Timothée, non, bon, oui, bon, de Timothée. Il n'est pas du tout mention de tension due à la présence de païens convertis. Par contre, l'Église est appelée synagogue. Chapitre 2, verset 2. Je l'ai déjà dit. Hein. Si quelqu'un entre dans votre assemblée. Alors c'est vrai que l'on pourrait traduire ça « entre dans votre réunion ». Mais c'est la synagogue. C'est la synagogue aussi. C'est le mot utilisé pour synagogue. Et c'est comme si l'on pouvait... Comme si l'autre Jacques parlait de l'Église, de l'assemblée comme d'une synagogue chrétienne. Vous avez des synagogues juives et des synagogues chrétiennes, un lieu de rencontre. Mais cette église, il l'appelle aussi église, chapitre 5, verset 14. Ecclésia, à la manière de Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc? Alors, oui, je rajoute un dernier point. Alors, je ne sais plus où je l'ai mis. Le point souligné, M. Ramdan. Bon, c'est quelque part. Ce dernier point, c'est le suivant. C'est Jacques 5, versets donc 1 à 6. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches. Qui sont ces gens? Alors, au chapitre 2, on pourrait encore plaider pour voir dans les riches d'Antioche qui sont au chapitre 2 des chrétiens. Qui viennent à la réunion, dans la synagogue chrétienne. Encore que. Mais on pourrait le dire. Hein, voilà, il y a des riches qui rentrent. Bon, il y a, en tout cas, c'est des gens ouverts à l'évangile. Hein, qui, bon, ce ne sont quand même pas ceux qui rentrent dans l'église qui persécutent. Ce sont les riches en général qui vous persécutent là. Mais ce n'est pas ceux-là, ceux qu'on a sous la main là, l'église, quand même pas. Bon. Donc on pourrait dire, ah, mais ces riches-là ne sont pas des riches. Ce sont des riches qui font partie de la communauté ou qui sont sympathisants de la communauté. Les commerçants du chapitre 4, pourquoi pas aussi? Mais les riches du chapitre 5, alors cela est très difficile de juger, de penser qu'ils font partie de l'Église. La manière dont Jacques en parle... Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils vous résistent. Et la manière dont il en parle, vraiment, c'est... Vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Bon, on a vraiment l'impression que Jacques parle à des non-chrétiens. Alors, on se trouve, voilà, cela à un phénomène, et comme je vous dis, je crois ne l'avoir jamais lu dans les commentaires. Moi, ça frappe beaucoup. Un phénomène très étrange que je ne trouve dans aucune épître paulinienne. Aucune. C'est que Jacques s'adresse à des gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Paul, il ne fait pas ça. Parce que là, la remarque de Claudine est évidente. Et comment vous voulez, le Romain, là, le gars de Corinthe, qui ne sait même pas que l'Église existe. quoi ça le concerne, disons, les... bon. À quoi est-ce que ça renvoie? Moi, je ne peux pas ne pas voir dans des textes comme cela, des textes dans l'Ancien Testament, Amos, où le prophète s'adresse à son peuple, croyant et incroyant. On va y venir. Vous avez peut-être pas entendu ce que la division entre l'Église et la synagogue n'est pas consommée. Hein? Bon.
Moi, j'ai plutôt l'impression plutôt qu'un autre, à mon tour, et moi, c'est dans un certain, j'ai l'impression de voir Jésus parler.
Ah oui, très bien. Oui.
Il est exactement la même
situation
de Rabbi Super, etc.
Oui.
C'est un peu la même façon de s'adresser au peuple.
Oui, alors, oui, alors tout à fait. Jésus reprend là tout le discours prophétique. Le discours, la manière dont les prophètes s'adressaient au peuple de l'Alliance, parce qu'ils font partie du peuple de l'Alliance et qu'ils l'écoutent. Oui. Eh oui. Alors, à quoi est-ce que ça s'applique? Nous sommes en plein temps, non pas de chrétienté, mais de judaïté. Moi, c'est comme ça. Je n'arrive pas à ne pas voir ça dans le texte. Nous sommes encore à une époque où il y a l'Église. Et je pense que la distinction entre l'Église et la synagogue est claire et nette. Je pense qu'il n'y a jamais eu une époque où il n'y a pas eu clairement une frontière entre l'Église et la synagogue, contrairement à ce que disent certains théologiens. Je pense qu'il y a toujours eu cette frontière. Mais, qu'est-ce que vous faites ? Quand vous êtes juif, que Dieu vous a donné une alliance depuis des siècles, et que rien ne prouve que cette alliance est finie. Bon, on est à Jérusalem, on est en Palestine, que vous attendez le retour du Messie qui était là, qui a créé, qui a donné l'esprit au reste fidèle d'Israël, qui a reçu les bénédictions de l'Alliance, tout ce qu'annonçait Ésaïe, tout ce qu'annonçait Ézéchiel 37, tout ce qu'annonçait Ézéchiel 36 sur la venue de l'Esprit, Ésaïe 35, ce qu'annonçait Ésaïe 53 sur la mort du serviteur, tout ça, Israël l'a reçu à la mort du Christ, à sa résurrection et à la Pentecôte. L'Église est créée. L'Église, c'est quoi? C'est le vrai Israël en Israël, en Palestine. C'est lui, l'Israël, qui a tout reçu. Je dis toujours, alors là, c'est dans un autre domaine, on comprend ce que je veux dire. Jésus n'est pas mort en sacrifice. Il n'est pas mort comme un sacrifice, ça nous le savons tous. Hein, je l'ai déjà dit 10 fois ici, mais je le répète, on n'a pas amené Jésus au temple. On lui a pas ouvert la gorge comme on faisait pour les sacrifices. Un sacrifice, c'est un animal qu'on amène au temple, qu'on met sur l'autel, on ouvre la gorge, on laisse couler le sang sur les cornes de l'autel, et on prend le bonhomme, enfin le bonhomme, ce qui reste de la chair, du sacrifice, on l'amène en dehors de Jérusalem, ça va dépendre de bonhomme, hein, et on brûle le corps. Ça, c'est un sacrifice. Mais Jésus, il n'y a pas eu ça. Par contre, il est bien mort en sacrifice, si l'on comprend que Ésaïe 53 est une annonce typologique. Jésus accomplit pleinement les sacrifices, mais pas littéralistement, bêtement, mais dans son sens profond. C'est comme ça que l'Ancien Testament s'est accompli. Mais l'Ancien Testament s'est accompli comme ça pour Israël. L'Esprit est descendu. C'est les Juifs qui ont reçu tout ça. Et moi, petit païen gaulois qui m'amène après, je ne bénéficie de cela que par grâce. Oui, bon. Mais ça, c'est Jacques. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
Et bien dans ces cas-là, vous ouvrez grand votre bouche, pas dire autre chose, et vous criez, repentez-vous, peuple de l'Alliance, reviens à Yahvé, tournez-vous vers le Seigneur. Oui. Absolument. Alors, je pense que ce n'est pas un traité d'évangélisation. Je pense que c'est une prédication adressée à des chrétiens, une prédication, une lettre adressée à des chrétiens, pour les consoler, pour leur dire ça aussi, mais qui s'adresse aussi à tous les membres du peuple qui sont appelés à entrer dans cet Israël-là. Jacques se sent libre de parler à la manière des prophètes et de Jésus, à tous ceux à qui l'évangile du royaume est adressé, c'est-à-dire à ceux à qui Jésus s'adressait, et entre autres aux riches qui rentraient dans l'église. C'est sûr que si l'on pense que les communautés chrétiennes, judéo-chrétiennes de Palestine et autre part, étaient des communautés fermées, où les gens ne rentraient pas parce que c'est... Alors là, on a un problème, mais ce n'était pas le cas. Quand vous avez des milliers de gens qui se convertissent, et bien les gens cherchent. Et puis il devait y avoir régulièrement des non-chrétiens juifs qui entraient dans ces communautés judéo-chrétiennes. Et on devait dire, mais nom d'une pipe, mais vous rendez compte, il y a Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ par là, et encore ici, et puis là, il y a ces riches, et puis bon, ils nous cassent les pieds, et puis on va même les tuer, ces journaliers, on va en liquider quelques-uns, et puis on va commencer la persécution, on va lapider telle personne, et puis on va envoyer des lettres de recommandation à Damas, et venez, amenez-les un petit peu, allez, Paul, tu vas nous les chercher, il y en a ras-le-bol, ils mettent la pagaille partout. Et puis à côté, vous avez ce type-là qui commence à proclamer « Et riche, non, ce n'est pas possible. Vous persécutez les pauvres, vous persécutez l'innocent. Mais il nous casse les pieds. On va le liquider. » Le gouverneur, il est parti. Bazardon, Jacques. Hop, on le lapide. On crée des meutes et on le lapide. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé comme ça, concrètement. Oui, tant pis. Jean-Baptiste, c'est tout à fait le même genre. Tout à fait le même genre. Je ne vois pas comment on peut interpréter ces textes autrement. Et ce qui me semble très frappant, c'est qu'on n'a rien de ça dans Paul. C'est normal. Ben Paul, c'est des gens qui se convertissent. Personne ne va voir ce qui se passe dans ces groupes-là. En dehors des quelques juifs qui n'acceptent pas que leurs concitoyens ou leurs co-religionnaires quittent la synagogue et qui créent des problèmes. Ce sont les juifs qui persécutent, c'est des groupes très minoritaires, mais la société, les gens de la société, les riches et les autorités, foutez-nous la paix, c'était ça, hein. Tout un temps. Jusqu'à ce que le christianisme a gonflé, et puis, ou même Néron, et puis après, Domitien, il s'est dit, c'est pas possible. Oui.
Vous avez des remarques qui ont été faites tout au début sur la qualité du vrai.
Alors, oui et non. Alors, depuis les travaux de Engel et d'autres, je suis assez convaincu que les apôtres parlaient le grec, même avant nous. En tout cas, un grec commercial. Moi, j'ai vécu au Tchad, un temps, n'importe quelle personne qui faisait du commerce parlait l'arabe du Tchad. Même s'il était du Sud et s'il parlait le Gambag, le Mboum ou une autre langue. C'est la langue commerciale. Et en Galilée, entre autres, où il y avait les 10 villes, la décapole, et où l'on faisait du commerce, et où les villes les plus riches étaient les villes hellénistiques, Citopolis et des trucs comme ça, on parlait certainement le grec. Et Jésus devait savoir un peu de grec. Il savait même assez bien le grec. Et l'on découvre de plus en plus que l'araméen, le grec, l'hébreu, bon, c'était la langue plutôt liturgique, mais l'araméen, le grec, on devait savoir beaucoup de grec en Palestine. Alors si l'Église est dispersée, Et s'il y a de ces juifs à Damas, à Antioche, un peu partout, eh bien Jacques écrit en grec, certainement. Surtout qu'il y a des synagogues hellénistiques. On sait qu'à Jérusalem, il y a des synagogues où l'on parlait le grec. Et que de ces synagogues hellénistiques sont sortis des gens comme Étienne, qui devaient bien savoir le grec aussi. Moi, ça m'étonne. Hein. Certains théologiens prennent les apôtres pour des idiots. En disant ils n'ont pas les diplômes. Bah, je sais pas moi. Allez voir des gens comme... je sais pas moi. Moi, je connais... des gens qui n'ont pas de baccalauréat mais qui sont extrêmement brillants. Alors aujourd'hui c'est peut-être moins le cas parce que tout le monde, la scolarité est obligatoire, mais regardez les étudiants qui allaient en, les pasteurs qui allaient en institut biblique autrefois qui avaient tout juste le BEPS. Il y avait parfois des gens très brillants, la campagne très brillants. Alors quand on voit qu'un étudiant en théologie est capable d'apprendre le grec en un an, ben, pour des gens qui déjà parlaient plus ou moins grec, apprendre en bon grec, ça ne me semble pas très difficile. Très honnêtement, je vois pas le problème. Et aujourd'hui, on abandonne cette idée de séparation entre une Palestine araméenne et une Syrie, par exemple, on parlait grec. Les choses étaient beaucoup plus... Enfin, un mélange très profond. Oui, il faudra qu'on continue parce que j'aurais fini ça, oui. Oui. Alors. Non, je vous concluez. À la lumière de tous ces indices, et en particulier du dernier, et aussi de l'absence de mention de païens convertis, de problèmes dus à la conversion des païens, dans les églises dont parle Jacques, je dirais que pour moi, il y a encore d'autres éléments qui vont intervenir, l'épître de Jacques est la première épître du Nouveau Testament, écrite avant le Concile de Jérusalem, avant les épîtres, l'épître que je considère comme la première de Paul, c'est-à-dire l'épître aux Galates, qui date de 48-49. Donc je daterai l'épître de Jacques des alentours des années 45. Vous pouvez me dire 44,5 ou 45,5 ou 46 ou 47, 48, c'est pas le problème. Aux alentours. L'appellation d'Étienne ? Alors, si l'on pense... Alors, ça dépend de la manière dont on date la conversion de Paul. Alors, c'est entre la Pentecôte qui suit la mort de Jésus, et ça dépend aussi de la date de la mort de Jésus. Jésus est mort soit en 30, soit en 33. Je privilégie 30. De très nombreux évangéliques proposent 33. Je pense que c'est 30. Si c'est 30, la Pentecôte a lieu en 30. La conversion de Paul, c'est un problème de date, 14 ans, 3 ans et demi, 3 ans, 14 ans, hein, bon, dans Galates, c'est un problème de date. On arrive aux alentours de 34. Donc la l'épitation d'Étienne, c'est entre 30 et 34.
C'est quand même
10
ans après.
Oui. Entre la l'épitation d'Étienne, alors Paul après, donc a passé pas mal de temps chez lui à Tarse. Il est venu en Antioche de Syrie après. Donc entre temps, il y a eu des persécutions, il y a eu la persécution d'Étienne. Il y a eu la croissance de l'Église en Syrie, Antioche, Damas. Paul, quand il va à Damas, il y a déjà des chrétiens. Puis il y a l'expansion normale de l'Évangile dans tous ces milieux judéo-chrétiens. Et donc je pense qu'on peut dater l'épître de Jacques d'assez tôt. Et elle s'adresse à une église très majoritairement judéo-chrétienne, si je comprends bien, qui souffre la persécution, qui souffre de tensions avec les juifs, en particulier en Palestine. Et on comprend donc pourquoi Jacques, de manière ayant une théologie de l'Église accomplissement Israël, parle de l'Église comme formant les 12 tribus et qui est en diaspora. L'Église, c'est le vrai Israël en diaspora, dispersé à cause de la persécution. Alors, oui. Alors, Flavius Joseph souligne combien Jacques était respectueux de la loi, et ce qu'il écrit suggère qu'il était bien perçu par les pharisiens. Et cela à une époque où les pharisiens critiquaient durement les sadducéens. Entre les pharisiens, c'était plutôt le parti du peuple, les sadducéens, le parti de l'aristocratie. Et Joseph ne cesse, chaque fois qu'il parle des sadducéens et des zélotes, de critiquer les sadducéens, en bon pharisien. Et de dire que les zélotes, c'était la pire des choses qu'Israël ait connue. Mouvement révolutionnaire. Pas révolutionnaire, religieux. Islamisme de l'époque. Donc je dirais, il ne serait pas étonnant que Jacques, alors on ne parle pas d'une prédication sociale en donnant les détails, hein, mais il ne serait pas étonnant que Joseph ait apprécié Jacques et que les pharisiens appréciaient Jacques pour ce pourquoi eux-mêmes luttaient, c'est-à-dire pour le respect d'un certain respect de la loi et en même temps... disons une critique des autorités, des sadducéens, etc. Ce ne serait pas étonnant. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, on peut juste continuer encore deux minutes parce qu'il est presque le cas. Alors, on a là, si c'est le cas, si ce que je pense est juste, on a là donc un livre, le premier, la première lettre du Nouveau Testament. Et en fait, c'est peut-être le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit. Puisque les évangiles ont été écrits un peu plus tard. Alors, en tout cas, c'est le premier livre que nous ayons qui correspond à ce qui a été écrit. Dans les évangiles, on a à coup sûr la reprise de choses qui circulaient. Il y a, à mon avis, des écrits déjà qui circulaient. On va y venir. Mais on ne les a pas tels quels dans le Nouveau Testament. Les évangiles les ont repris, retravaillés. Mais les évangiles, dans leur forme actuelle, datent quand même d'un peu plus tard. On a vu ça lors des derniers cours que nous avons. Les épîtres de Paul datent d'un peu plus tard. Et puis Pierre aussi, Hébreux aussi, l'Apocalypse aussi. Et les épîtres de Jean, bien sûr, aussi. Premier. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on a un témoignage assez intéressant d'une théologie judéo-chrétienne, c'est-à-dire d'une théologie chrétienne qui a été formulée avant l'entrée des païens dans l'Église. Ça c'est intéressant, si c'est le cas, hein, si mon interprétation est juste. Et alors j'aimerais dire juste cela, parce que oui, d'accord. Ouais. J'allais dire ça, il me semble intéressant. Si vous lisez Jérémie chapitre 7, par exemple, qu'est-ce que dit Jérémie? Jérémie dit, en gros, ce qui est premier, c'est l'alliance, ce qui est second, c'est les sacrifices. C'est pas parce qu'il y a les sacrifices qu'il y a l'alliance, mais c'est parce qu'il y a l'alliance qu'il y a les sacrifices. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la conception vétérotestamentaire du sacrifice au temple n'a jamais été comprise d'une manière juste que le sacrifice enlève le péché. Jamais dans l'Ancien Testament on suggère que le sacrifice d'un bouc ou d'un taureau ou de ce que vous voulez pouvait réellement le péché. Tout suggérait que ce n'était qu'un symbole, qu'un acte symbolique qui annonçait quelque chose d'autre. Il fallait le recommencer tous les ans, même le psaume 40. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, alors j'ai dit, Seigneur, me voici, voici mon corps. C'est le Messie qui parle comme ça. Extraordinaire. Ésaïe 53, Ésaïe réfléchit. Il dit, je sais que le sacrifice ne peut pas enlever le péché, mais alors qu'est-ce qu'on va faire, nom d'une pipe? Il est là, le problème du péché. Comment on va s'en sortir? Ah oui, voici mon serviteur. Lui va donner sa vie en sacrifice pour le péché, et ça, ce sera ce sacrifice accomplira les sacrifices, qui n'étaient qu'une figure. Alors un juif comme Jacques, ou le temple, c'est qu'un temple, c'est qu'une maison. Dieu n'habite pas dans le temple. C'est évident dans l'Ancien Testament. Mais c'est symbolique. Il y a des éléments symboliques, liturgiques, qui suggèrent, ouais, mais qui soulignent. Alors qu'est-ce que faisaient les chrétiens ? Les chrétiens devaient se dire, mais bon, ces choses ne sont pas interdites, ce sont que des symboles. Quand on va prier au temple, bon, eh bien bon, ce sont des actes symboliques. Nous, lorsqu'on pratique un baptême, nous sommes bien sûr convaincus que le baptême ne fait pas quelqu'un de chrétien. Moi, je dis toujours, bon, baptiste, hein, je suis baptiste. Pour moi, le baptême, c'est la chose la moins importante. C'est vraiment la chose la moins importante. Puisque ma théologie m'enseigne que le baptême n'est que l'expression extérieure d'une réalité qui doit exister avant. Et que le baptême n'est rien s'il n'y a pas ça. Le baptême n'est que une confession publique, c'est tout. Alors c'est bien, c'est important le baptême, bon, je suis baptiste, hein, mais c'est le moins important. C'est vraiment le moins important. Eh bien, le sacrifice, ben, c'est le moins important. Jésus est mort pour moi. Mais si je vais au temple, je ne trahis rien. Israël, le pays, ah ben, c'est sûr que ce qui compte, c'est la communion avec le Christ, mais Jésus va revenir un jour, et il va établir une nouvelle terre. Eh bien, peuple de l'ancienne alliance, prépare-toi pour la venue du Messie qui revient. Oui. Cette église, j'imagine comment ces judéo-chrétiens devaient comprendre les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Pour eux, toutes ces réalités vétérotestamentaires s'accomplissent en Jésus-Christ, et donc ils les prennent pour ce que c'est, des symboles. Enfin, des symboles, des annonces de réalité que Jésus-Christ accomplit. Et l'on trouve ça alors dans la prédication riche. Alors, il y avait une question, mais je veux vraiment finir avant, oui. Alors, tout à fait. Alors, je comprends. Est-ce que ce serait aussi scandaleux que cela? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça nie une chose. C'est le jugement qui est tombé sur l'ancienne alliance en 70. Ça nie un point central dont Jésus a parlé dans Matthieu 24, dans Matthieu 23, etc., etc. Un point, c'est que le jugement, Dieu a clos l'ancienne alliance lorsqu'en 70, il l'a déclaré fini par son jugement. Et que ce serait retourné à une ancienne alliance qui n'était que figure des choses à venir, que Dieu lui-même a clos. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance ne peut pas amener la perfection. Et qu'il ne fallait que les réalités dans la nouvelle alliance. Là, il y a un événement historique qui a une portée théologique majeure. Jésus en fait même la préfiguration de la fin des temps, du jugement dernier. Le jugement sur Jérusalem est en préfiguration du jugement dernier, dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans de nombreux textes. C'est nier cela. Et alors ça me poserait de gros problèmes. Mais il faut en discuter, bien sûr. Tout le monde, j'en suis convaincu, n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire ici. Ça, j'en suis certain. Sinon, c'est pas... On ne viendrait pas des différents milieux évangéliques, hein, parce que dans les deux milieux évangéliques, ne pensons pas tous de la même manière sur ces questions-là. Je reviens au texte. Et donc au grand. C'est au grand B. Hein, c'est au grand B, le contexte historique. J'avais un grand C. Ah oui, au grand C, on va le sauter, là, c'est pas grave. Ça m'amène un grand C que je ne prends pas. On fera ça la fois prochaine. Donc le grand C, c'est les sources de l'enseignement de Jacques. Et je vais prendre ça aussi comme une confirmation, en partie, en tout cas, de ce que je viens de dire. D'où vient, disons, quel appui théologique, scripturaire, on va dire, trouve-t-on dans Jacques ? Sur quoi Jacques s'appuie-t-il pour dire ce qu'il dit ? Est-ce qu'on peut trouver des sources ? Alors Jacques cite l'Ancien Testament à 4 reprises, en l'introduisant par la formule « l'Écriture dit » ou « l'Écriture oui, affirme ». Donc c'est au chapitre 2, verset 8. « Si au contraire vous conformez à la loi du royaume de Dieu telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. » 2.8, 2.11, de nouveau des citations explicites. 2.23, 2.23, c'est Abraham. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Et 4.6. 4.6, c'est le texte « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Alors, il y a la discussion de savoir si en 4.5, on a aussi une citation ou pas. Ça, c'est pour votre dissertation. Donc, en tout cas, il y a 4 citations sûres. 4.5, ça pose un problème. Mais Jacques fait allusion à plusieurs personnages d'épisodes vétérotestamentaires. Cite textuellement, mais il y a aussi des allusions, de nombreuses allusions, à des personnages d'épisodes vétérotestamentaires. Alors il parle d'Abraham, chapitre 2, il parle de Rahab, 2.25. Il parle des prophètes de l'Ancien Testament en général, chapitre 5, verset 10. Il parle de Job, 5, verset 11. Il parle d'Élie, 5, verset 17. Donc il y a des allusions. Et puis Jacques s'inspire aussi de nombreux enseignements de l'Ancien Testament. Des allusions, si vous voulez, pas à des personnages, mais à des enseignements. Par exemple, il souligne que les hommes sont créés en image de Dieu. Comment peux-tu maudire par la langue ce qui a été créé en image de Dieu ? Jacques 3, verset 9. 4, verset 7, il mentionne le diable. L'enseignement sur le diable. Son style aussi ressemble à celui des prophètes. Par exemple, lorsqu'il dit « peuple adultère », vous savez, adultère, alors dans les versions 4.4, qu'est-ce que vous avez dans votre version là ? Adultère que vous êtes, c'est ça ? Seulement adultère, c'est au féminin. C'est femme adultère que vous êtes. Alors pourquoi femme adultère ? C'est parce que Sion, c'est une femme qui trahit son mari, son époux, le Baal. Le Baal, c'est l'époux. Le mari, c'est l'éternel. Le vrai Baal, c'est Yahvé. Le mari. Je suis ton mari. Jérémie 3. Je suis ton Baal, dit Dieu. Et tu m'as trahi. Tu t'es prostitué, etc. Donc, peuple adultère. Ça, on trouve ça alors dans plusieurs textes, dans l'Ancien Testament. Dans les prédications contre les riches, bon, il y a là une allusion à Amos et à des prophètes. Bien. Mais il y a aussi tout ce qui est dit de la sagesse. Et la centralité du thème de la sagesse, c'est un thème essentiel. Ça, c'est toute la littérature de sagesse qui est impliquée là-dedans. Sagesse d'en haut. Je répandrai sur vous mon esprit, dit la sagesse en Proverbe. Ben, c'est l'esprit, c'est la sagesse qui vient. Bon. Mais c'est pas tout. Donc, Jacques, l'épître est imprégnée dans Saint Testament. Mais c'est pas tout. Et là, je vous renvoie maintenant à l'autre photocopie que je vous ai donnée sur Jacques et la source Q. Voilà. Alors, qu'appelle-t-on source Q? Alors d'abord, le mot source se dit en allemand Quelle. Et donc, Q, c'est simplement Quelle. C'est la première lettre du mot allemand, source. On appelle ça source Q. Alors, qu'est-ce que c'est la source Q? Les spécialistes du Nouveau Testament, dès qu'ils sont des questions des évangiles, des synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, ont étudié les synoptiques et se sont rendus compte que ces synoptiques sont formés apparemment de plusieurs sources littéraires. Ils se sont rendus compte qu'il y a, entre les synoptiques, de très nombreux textes que l'on retrouve et dans Matthieu, et dans Marc, et dans Luc. On a 5 minutes. Et dans Matthieu, et dans Marc, et dans Luc. D'accord ? Bien. On appelle ça la triple tradition. Et puis après, ils se sont rendus compte qu'il y a des textes communs à Matthieu et à Luc qui ne sont pas dans Marc. Et lorsque l'on extrait ces textes de Matthieu et de Luc, on a étudié ça hein, il y a quelques 3-4 ans, je ne sais pas, ici. Bon. Voilà. Lorsqu'on extrait ces textes de Matthieu et de Luc, on se rend compte que ces textes ont des caractéristiques littéraires. Ont une caractéristique littéraire. Et laquelle ? C'est que ces textes qui se trouvent insérés à des endroits différents dans Matthieu et dans Luc, vous voyez, c'est inséré à des Matthieu et Luc, quand vous les sortez, vous vous rendez compte qu'ils suivent exactement le même ordre, pratiquement, dans Matthieu et dans Luc. Vous me suivez ? Comme si Matthieu avait eu la triple tradition devant lui et la source et ses textes de Matthieu Luc, Luc de même, et puis ils ont inséré les textes de communs à eux deux en des endroits différents mais en respectant l'ordre parce qu'ils respectaient leur source. Donc lorsqu'on les sort, eh bien, on se rend compte qu'il a le même ordre, ce qui suggère fortement que ces textes ne sont pas simplement des textes venant d'une tradition orale, mais sont des textes qui étaient peut-être écrits et que leur ordre était figé, puisqu'on retrouve le même ordre. Et en plus, il y a une certaine cohérence entre ces textes. Ça tient ensemble. On n'a pas le temps, ça j'aurais pas le temps, même en cours ici on n'en a pas vraiment parlé de ça. On appelle ça la source Q. Et on pense que derrière la source Q, donc dans ce que cette source Q représente l'un des premiers écrits chrétiens, écrit très tôt, dans lequel étaient regroupés certains enseignements de Jésus et certains récits. Et les évangélistes se sont servis de cette source pour écrire, en plus de la triple tradition, pour écrire leurs évangiles. Dans cette source Q se trouvent en particulier de nombreux textes que l'on retrouve dans Matthieu et dans Luc. Et Matthieu les a regroupés dans le sermon sur la montagne. Comme si ce sermon sur la montagne, cette section, si vous voulez, ce sermon sur la montagne renvoyait à un enseignement de base que l'on donnait dans l'Église, que l'on retrouve dans la source Q. Luc à ces textes de manière un peu dispersée, c'est des paroles, et Matthieu les a regroupées dans ses discours. Dans son discours, 60-70. Et je dis tout cela, parce que j'ai encore une minute pour arriver à cela. Quand vous prenez ça, ce que je vous ai photocopié, vous vous rendez compte de quoi? Eh bien que Jacques semble être truffé d'allusions à des enseignements que l'on trouve dans la source Q. Comme si Jacques avait à sa disposition peut-être pas l'écrit, j'en sais rien, mais en tout cas l'enseignement qu'il donnera, le sermon sur la montagne, et aussi peut-être la source Q. Le texte le plus frappant, c'est bien sûr le texte de 5, verset 12. Hein, vous le connaissez, donc vous dites, avant tout mes frères, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ça, c'est le sermon sur la montagne. C'est une citation texto de Jésus, que l'on trouve dans le sermon sur la montagne. Sur ce. Alors ça, ça plaide pour une source de l'épître très ancienne qui n'est pas encore les évangiles mais peut-être un premier écrit chrétien qui très tôt a rassemblé des paroles et des faits de Jésus dans une source qui après sera utilisée pour l'écriture des évangiles, la rédaction des évangiles. Moi je dirais je pense que la source Q. Bon, alors je ne dites surtout pas ça à l'extérieur, hein. Si vous ne justifiez pas. Je pense que très tôt, dans l'année, les 2-3 années qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus de la Pentecôte, on a écrit, très tôt, en araméen, en hébreu, très très tôt. Et que la source Q, alors date peut-être, on va dire, entre les années 35 et 40, peut-être. Très tôt. Mais là, il faudrait bien sûr que je justifie. Cela suggérerait aussi le caractère archaïque de cette épître. Alors, ce que nous allons voir la fois prochaine, c'est nous allons réfléchir à la théologie que développe Jacques. En particulier sur la justification par la foi et les œuvres. Jacques 2. Et nous allons bien sûr nous poser la question de savoir comment comprendre ça de la lumière de Paul. Alors vous imaginez bien sûr à la lumière de ce que je viens de dire, que je considère que Jacques est premier, Paul est second là, sur cette question là. Que Paul vient après Jacques. Mais on va quand même se poser honnêtement la question, on ne va pas prendre ça pour un acquis, mais on va se poser la question, savoir comment comprendre le rapport entre Paul et Jacques, et si ce que j'ai dit là aujourd'hui tient debout, comment comprendre ce que Paul dit à la lumière de ce que Jacques dit, voyez. Comment voir ça? Pardon? Absolument. S'il y en a une. Voilà, on arrête. Je ne veux pas rater mon temps.